les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Lise-Marie Cassard, Alexandre Marlier.
Sarah, savais-tu que la meilleure place au coin du feu était celle des Monstres et Merveilles ?
Non, mais j'imagine que Lise-Marie va nous en parler aujourd'hui, puisque c'est de Monstres et Merveilles que tu nous parles. C'est Jim Henson, le papa du Muppet Show, qui a créé ça, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Jim Henson fut l'un des plus importants marionnettistes de l'histoire de la télévision moderne. C'est le créateur de Kermit la Grenouille, de Peggy la Cochonne et de plus de 400 marionnettes. Il crée ses premières Muppets en 1954, alors qu'il poursuit encore ses études. Il commence à travailler dans la création de marionnettes pour une émission d'enfants du samedi matin. L'année suivante, il crée Sam & Friends, une émission de 5 minutes. Sam & Friends était déjà des marionnettes reconnaissables et l'émission a introduit une première version du personnage qui deviendra la signature de Henson, la célèbre Kermit la Grenouille que nous connaissons tous. Henson expérimentait alors des techniques qui allaient modifier la façon dont les marionnettes seraient utilisées à la télévision, en utilisant notamment le cadre défini par la caméra pour permettre aux marionnettistes de travailler hors champ. 15 ans plus tard, en 1969, Jim Henson obtiendra sa première émission propre avec Sesame Street, qui est appelée chez nous un Rue Sésame. Ce spectacle pour jeunes enfants aura un grand succès pendant de nombreuses années. Il sera traduit et exporté dans pas moins de 80 pays tout de même. Le Muppet Show que nous connaissons tous, créé en 1976, devient l'émission la plus suivie dans le monde, attirant quelque 235 millions de téléspectateurs. L'émission est en fait une petite comédie musicale basée sur des personnages marionnettes, mais avec la participation également de personnages de la chanson bien réels, comme Charles Aznavour, Liza Minnelli ou Elton John. On se rappellera surtout du duo de petits vieux au balcon du théâtre, Stettler et Waldorf, prédiquant toujours ce qui se passe avec leurs remarques acerbes, ainsi que le saxophoniste du groupe.
Ah non, moi c'était le batteur.
Ah justement, j'allais en parler, qui s'appelle Animal. Et c'est certainement en fait le personnage le plus populaire. Il est totalement cinglé, il grogne plus qu'il ne parle. Et il est toujours attaché en permanence à une chaîne. Et les autres membres du groupe doivent le surveiller tout le temps. C'est assez, oui, c'est celui dont tout le monde se rappelle, je pense.
Moi je préférais le cuisinier quand même. Le cuisinier était très drôle aussi.
Alors moi je préférais celui-là,
Oui, ça peut durer longtemps. Oui.
C'est juste que c'était pas bon en doublé, mais enfin bon, c'est pas grave.
Jim Henson a aussi contribué énormément au cinéma. Le Muppet Show s'arrêtera après quelques saisons, mais les personnages continuent d'apparaître dans une série de longs métrages, comme par exemple le Muppet Movie ou encore Noël chez les Muppets, qui a été réalisé par Brian Henson en hommage à son père.
À noter quand même que tout ce qui concerne les Muppets a été vendu il y a quelques années, et c'est la société Disney qui possède à présent toutes les billes de la société Jim Henson.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut rencontrer les personnages des Muppets dans les parcs Disney aux États-Unis. Henson réalisa également deux autres longs métrages, un film de fantasy, Dark Crystal, co-réalisé avec Frank Oz et sorti en 1982.
Mais surtout,
Labyrinthe, n'est-ce pas, Sarah et Alex, sorti en 1986 et comme produit par George Lucas.
Avec David Bowie.
Pour avoir un style visuel complètement différent de celui du Muppet Show, le design des marionnettes des deux films fut basé sur le travail du dessinateur Brian Froud. Henson continua aussi à créer des programmes pour enfants tels que Fraggle Rock et le dessin animé Muppet Babies, ainsi que des nouvelles émissions de Prime Time telles que The Tori Steller, traduit en version française par Monstres et Merveilles, dont on vous parle maintenant, et aussi une autre série orientée sur la mythologie grecque.
En quelque sorte, la suite du Storyteller, ça s'appelle d'ailleurs The Storyteller Greek Myth, qui revient sur quatre grands mythes grecs et qui a été produit 2 ans après Monstres et Merveilles, version originale, pour Channel 4 en Angleterre, qui fut l'une des dernières productions de Jim Henson avant son décès, puisqu'il est mort en 1990. Les légendes grecques ont été produites cette même année.
C'est les chevaliers du zodiaque en marionnettes ou quoi ?
Non, on ne va pas jusque-là quand même.
Et alors, en 1982, Jim Henson fonda la Jim Henson Foundation afin de promouvoir et de développer l'art du marionnettisme aux États-Unis. Il créa également la Jim Henson Creature Shop pour construire des créatures pour un grand nombre de films et de séries. Et il est aujourd'hui en fait considéré vraiment comme l'un des créateurs de marionnettes pour films les plus respectés.
Ainsi, la princesse qui n'avait pas su tenir sa promesse reconquit le cœur de son époux car elle avait marché jusqu'au bout du monde pour le retrouver au-delà de sa jeunesse. Il advint que ses cheveux retrouvèrent leur couleur, que jeunesse lui revint et que les cloches de ses noces sonnèrent à nouveau. Et nous fûmes invités. et je leur racontais monstres et merveilles et cette histoire étrange qui porte en elle les frissons du matin et les lueurs du soir. Et elle me fit présent d'un sabot usé, usé jusqu'au bout. Et le voici.
En 1987, donc, Jim Henson présente son nouveau concept de série. On y retrouve des contes narrés par le storyteller, le conteur, joué par John Hurt, et son chien qui est une marionnette, qui parle. À noter, les animaux parlent dans Monstres et Merveilles.
John Hurt qui a quand même l'habitude des bébêtes et des monstres animés, puisque c'est quand même de son ventre que sortait le premier alien dans le premier film de la série.
Et puis c'est aussi lui qui a joué le Elephant Man de David Lynch.
Donc il a l'habitude des costumes, des oui. grands déguisements et des marionnettes.
Et plus récemment, on l'a aussi vu en Monsieur Ollivander, le marchand de baguettes dans Harry Potter. Donc il est effectivement plongé toujours dans des atmosphères très magiques.
Il est vraiment à sa place, hein. C'est vraiment, je vois vraiment personne d'autre pour incarner... le personnage du storyteller.
Il est un peu irremplaçable.
Ouais. D'ailleurs, dans la suite, dans les légendes grecques, c'est un autre conteur et le charme n'y est pas
le
tout à
Le charme est rompu
ouais.
un peu à Légèrement. Cause de ça, oui. Jim Henson, pour ce projet qui lui tient à cœur, retrouve l'univers sombre qu'il affectionne particulièrement et qui rappelle énormément les deux ambiances qu'il a déjà mises en place dans ses deux films, Dark Crystal et Labyrinthe, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a inclus aussi lors du tournage des effets spéciaux dignes du cinéma, comme l'utilisation des animatronics, fort peu intégrés à l'époque dans des séries. Bien que fort peu connu, The Storyteller a tout de même gagné le British Academy Award du meilleur programme télévisé pour enfants et l'Emmy Award du meilleur design de costume dans un programme pour enfants en 1987. A noter aussi l'épisode Hans le Hérisson, qui est pour moi l'un des meilleurs, qui a gagné un Emmy Award en 1987. Comme on le disait tout à l'heure, John Hurt a vraiment ajouté à la série la passion de la narration, ce qui permet vraiment aux téléspectateurs de s'immerger complètement dans l'histoire. Et je pense que c'est vraiment lui l'élément essentiel qui relie toutes les petites histoires pour nous permettre vraiment d'intégrer chaque conte. Les 9 récits sont rédigés par Anthony Minghella, auteur à succès, qui réalisera 10 ans plus tard Le Patient Anglais, tout de même. Jim Henson remet ici au goût du jour une série de contes populaires européens qui ont toujours des origines... allemande ou celtique, à chaque fois c'est rappelé au début de l'épisode. Il rassemble tous ses thèmes favoris et tourne quelques dizaines d'épisodes où la technologie de pointe et l'imagination transportent les spectateurs dans des mondes peuplés d'êtres humains, de marionnettes et d'ombres chinoises, technique qu'il utilise dans de nombreux contes. Les 9 histoires, je vais vous en dire 2 mots de certains. Le premier, c'est le géant sans cœur. Un géant sans cœur terrorise un pays, mais le roi le capture et l'emprisonne. Léo, le plus jeune des 3 princes, devient cependant son ami et le libère. Mais le géant recommence évidemment à terroriser tout le pays. Les 2 frères de Léo essayent d'aller le capturer, mais n'en reviennent jamais. Et Léo va poursuivre le géant pour essayer de retrouver son cœur et pour qu'il libère toutes les personnes qu'il a emprisonnées. Et en chemin, il sauvera 3 animaux qui lui rendront service pour justement retrouver le cœur du géant. Dans cette histoire, on voit bien que les animaux parlent, viennent en aide aux humains, etc. Et il y a un fort rapport entre le petit Léo, ici dans ce cas-ci, et les animaux.
Et l'ensemble des histoires est très morale, finalement.
Oui, et en même temps, l'histoire en elle-même est morale, mais à la fin, il n'y a pas vraiment la morale toute faite.
Morale, on se la fait soi-même.
Exactement, voilà. Je vais aussi vous parler de l'enfant de la chance. Il est prédit qu'un enfant né du 7e fils d'un 7e fils sera roi. Ce qui est assez rare évidemment et qu'on ne voit que dans des contes et des légendes parce qu'un 7e fils d'un 7e fils, personne n'a encore jamais vu ça. Cet enfant de la chance est bientôt menacé par un roi maléfique qui veut le tuer puisque le roi pense que l'enfant de la chance va lui prendre sa place. En fait, il veut le tuer à l'aide du griffon qui est un monstre qui illustre bien... toute la panoplie des monstres qui existent dans Monstres et Merveilles. Et pourtant, en fait, comme de nombreux monstres, le griffon a un côté gentil, bon, qu'on ne voit pas énormément, mais qui va venir en aide, finalement, à l'enfant de la chance et punir le mauvais roi. Pour moi, c'est un des meilleurs épisodes, celui-ci, parce que l'histoire est très très chouette. Elle est bien menée. La prédiction de l'enfant de la chance est tourné de façon à ce que en fait il devienne roi parce qu'il va simplement épouser la fille du roi.
En fait, la crainte de l'inconnu fait croire au roi que l'enfant va le tuer, mais finalement c'est pas du tout ça.
Exactement, mais le roi va être puni à vie. Donc en fait, les histoires se terminent bien dans la plupart des cas pour le héros, mais pas toujours pour tout le monde. Par exemple, le père, enfin le roi ici, sera puni à vie d'avoir eu des pensées aussi maléfiques envers l'enfant de la chance. C'est moralisateur, mais tout ne se termine pas toujours bien. Une autre histoire que j'affectionne pas mal, c'est Une histoire en moins. Ici, c'est notre conteur qui va être mis en scène et qui raconte une des histoires qui lui est arrivée à lui. Alors on se demande si c'est vraiment une histoire qui lui est vraiment arrivée ou si c'est une de ces légendes où il s'est inscrit dedans, et elle est vraiment charmante. Comme je le disais tout à l'heure, le meilleur épisode pour moi, c'est Hans le hérisson, où l'épouse d'un fermier désire tellement un enfant qu'elle essaye chaque herbe et remède susceptible de l'aider, et elle donne un jour naissance à un enfant mi-garçon, mi-hérisson. Il grandira isolé dans un château jusqu'à ce qu'il rende service au roi et reçoive la main de sa fille en retour. Je vais un peu développer cette histoire tout à l'heure, donc je vous la réserve pour la suite. Ces contes sont toujours inspirés de légendes d'Europe, comme je vous l'ai dit. Parfois, certains épisodes comprennent plusieurs croyances populaires, mais Henson les voulait toujours proches de l'histoire originale. Donc c'est parfois un regroupement d'histoires, mais elles sont toujours très proches de l'histoire. La mort est assez souvent présente dans les contes, les malédictions aussi. Chaque héros fait preuve d'énormément de courage, et comme dans tous les contes, il y a aussi la notion de devoir lié au rang. Les gens de pouvoir, le roi, prince, princesse, doivent toujours faire ceci ou cela. Un tout petit mot sur la structure des épisodes qui est toujours la même. Au début, le conteur raconte le début d'une histoire, ensuite c'est le générique qui apparaît, puis s'inscrit le titre de l'épisode, le conteur discute ensuite avec le chien et la transition se fait petit à petit entre une discussion avec le chien et les images de l'histoire qui arrivent, et puis en fait, en un coup, ce n'est plus le conteur qui raconte l'histoire, mais l'histoire qui prend le dessus et qui se déroule sous nos yeux. Encore une petite chose à noter, c'est parfois le chien qui joue le rôle de conteur. Donc la série est en fait structurée en deux temps. Il y a la partie narrateur, lorsque le conteur prend la parole. Et dans un deuxième temps, les personnages dont il vient de parler prennent en quelque sorte vie et l'histoire prend le dessus. Le conteur n'est plus du tout présent alors. Mais c'est lui qui est le lien entre la réalité et la légende.
Eh oui, hier soir j'ai oublié la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi je suis sorti et j'ai offert mon dîner et ma soupe à un mendiant.
Notre soupe.
Naturellement, les sots vont me croire plus sot qu'eux et les sages créeront que je suis devenu fou. Car un sot mange sa dernière pomme de terre tandis que l'homme sage la plante. Et cela dit, chacun sait parfaitement que les mendiants sont rarement ce qu'ils prétendent.
Tu n'as pas planté de pommes de terre. Tu as donné notre soupe. Et qui était cet homme sinon un mendiant? Je vous garantis que c'était un mendiant. Hein, tu sais.
Il y eut un temps, voyez-vous, où moi-même je fus obligé de mendier. Ce fut une rude époque, une époque de grand froid, une époque où le pays avait faim et où seuls les riches conservaient leur bedaine. Et moi, je vagabondais le ventre creux et la tête vide, sans amis, sans foyer. Et un matin, j'arrivais dans un nouveau royaume, devant un grand palais. Et là, je m'arrêtais parce que j'avais reniflé les chaudes et succulentes odeurs d'une cuisine où rôtissaient des gibiers. J'allais frapper pour demander l'aumône quand...
Hors d'ici ! Et que je t'y reprenne à rôder autour de mes cuisines.
Ah. Bonjour, messire.
Je fais frire les mendiants qui me font perdre mon temps.
Oh, vous avez bien raison. C'est une excellente habitude. Auriez-vous de l'eau à me donner, messire?
Quoi?
Quelques gouttes suffiront. J'ai là un beau caillou, voyez. Et avec un petit peu d'eau, je pourrais confectionner une soupe pour mon ami et moi.
Comment ça, une soupe?
Oh, ce sera délicieux.
Tu te moques de moi? On ne fait pas de la soupe avec un caillou.
En fait, il faut savoir que la soupe au caillou, c'est une soupe normale. C'est un embrouilleur, ce type.
Oui, tout à fait, parce que petit à petit, il va demander au cuisinier de rajouter quelques pommes de terre, et puis quelques petites herbes, et puis pourquoi pas un champignon ou l'autre. Et en fait, ils vont faire une soupe. Tout ce qu'il y a, c'est qu'au fond, il y a un gros caillou qui traîne dedans. À un moment, le cuisinier va quand même s'en rendre compte, et toute l'histoire va partir là-dessus. Il faut voir l'épisode, sinon on est parti pour une heure de conte.
Oui, mais encore, ça datait quand même d'il y a un certain temps. Quand on le regarde aujourd'hui, ça fonctionne?
La série a quand même été diffusée il y a 20 ans, il ne faut pas l'oublier, et elle a quand même pris un petit coup de vieux. Je pense que les enfants d'aujourd'hui n'apprécieraient pas tellement parce que c'est trop décalé de ce qu'ils voient actuellement à la télévision. Par contre, à l'époque, c'était vraiment très très bien et on sent vraiment le rapprochement avec des films comme Labyrinthe, etc., qui avaient un succès fou à ce moment-là. Je pense que les créatures du storyteller auraient pu tout à fait passer et réussir le casting haut la main de Labyrinthe. Effectivement, les enfants aujourd'hui ne pourraient pas s'y retrouver, je pense, parce que les monstres leur feraient même peut-être peur. Non, ça a vraiment vieilli.
C'est une question de génération, en fait.
Et puis même, pour des adultes aujourd'hui, on regarderait ça avec un petit sourire, mais c'est embêtant de regarder une histoire jusqu'à la fin. Une ou deux sont vraiment sympas à suivre jusqu'au bout, mais on n'accroche plus du tout. Mais les moyens techniques déployés à l'époque pour la réalisation de la série sont vraiment énormes. Ça, il faut en être conscient. Jim Henson fait appel à la pointe de la technologie de l'époque. Les effets spéciaux numériques n'existaient bien sûr pas à la fin des années 80. Et Henson décide d'apporter au petit écran les effets spéciaux du cinéma. Ainsi, le système Animatronix est employé pour les plans rapprochés. Et l'Animatronix, en fait, c'est une méthode d'animation par de petits mécanismes radiocommandés. Des servomoteurs sont intégrés dans la tête de la marionnette, devenant ainsi des muscles de substitution recouverts de latex.
C'est déjà ce qui avait été utilisé dans Labyrinthe, d'ailleurs, pour la marionnette Dougal, ficelle.
Ombrelle.
L'impression de vie est vraiment étonnante. On a l'impression qu'ils prennent vie devant nous. Le chien du narrateur fut à l'époque animé de cette façon-là, justement par Brian Henson, le fils de Jim, qui accompagnait déjà son père sur les plateaux.
C'est même lui qui lui prête sa voix.
On fait également appel à des maquilleurs professionnels qui utiliseront les techniques les plus développées pour, à l'aide de moulages en latex, élaborer des maquillages plus vrais que nature. Des costumes complexes ont aussi été créés. Dans l'épisode Hans le hérisson, par exemple, l'acteur devait enfiler une combinaison intégrale. Ce costume épineux ne comportait pas de couture ni de traces d'éventuelles boutonnières. Et il ne fallait pas moins de 4 heures pour que la transformation s'opère. Donc à chaque fois qu'il tournait, ça prenait 4 heures pour qu'il soit entièrement déguisé en hérisson.
Heureusement que c'était qu'un épisode.
Donc c'était pas toujours facile, facile. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ces contes, c'est que ce n'est pas moralisateur, comme on le disait tout à l'heure. En fait, il y a une morale qui est bien présente dans l'histoire, mais on n'a pas la conclusion, comme à la fin de pas mal de séries actuelles pour adolescents, où on dit « ça c'était bien, heureusement que nous avons fait ça ». Non, ça on n'a pas ici. La morale, on la tire soi-même à la fin de l'histoire, on en tire des conclusions que l'on veut. L'autre point que j'apprécie, c'est que le conteur apparaît lui-même dans les fables. Ses apparitions se font souvent avec beaucoup d'humour. Il apparaît, par exemple, dans une histoire, à un moment, il dit « Un très sympathique conteur amusait le roi et la reine ». Et puis là, on le voit apparaître. Donc, il se met en avant, il se jette des fleurs. Et c'est des petits clins d'œil où il y a vraiment une complicité avec le téléspectateur. À d'autres moments, par exemple, il continue à raconter en faisant la vaisselle. Dans l'histoire, voilà, c'est lui qui est puni, qui doit faire la vaisselle. Ou alors, en parlant d'une princesse, « Elle ne voulait voir personne, même pas moi, pourtant elle m'aimait tant. » C'était le super conteur de tous les contes. C'est lui qui passait dans tous les châteaux, vu qu'il y avait à peu près un roi et une princesse dans chaque épisode. Les contes, en général, se terminent bien, comme je le disais tout à l'heure, mais pas pour tout le monde, pas spécialement pour les méchants. Et pourtant, les monstres ne meurent jamais. Les méchants monstres continuent à exister, parce que c'est ainsi. La fille est faite ainsi et c'est pas pour ça qu'il faut les tuer, il faut faire avec. C'est un peu souvent ça que je remarque dans les contes.
C'est un peu la différence avec les légendes grecques dont on parlait tout à l'heure, où là, par exemple, le Minotaure est tué, mais parce que c'est ainsi dans la légende.
Oui, c'est ça.
Et je dirais que au niveau de cette seconde mini-série, on est fort proche de la légende telle qu'elle existe réellement, tandis que dans la première saison des Monstres et Merveilles, l'histoire est parfois un peu modifiée pour la rendre plus belle ou plus féerique encore, tandis qu'ici, dans les légendes grecques, c'est vraiment l'histoire telle qu'elle.
Aussi parce que je pense que les légendes grecques sont plus connues de l'ensemble des gens, tandis que
les histoires contées ici dans les 9 premiers épisodes.
Peut-être connues dans certaines régions d'Europe, mais que tout un chacun ne connaît pas.
Et rassurez-vous, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.